quand j'ai débuté mon métier d'instit, j'aimais bien un peu observer les parents quand ils quittent leurs enfants. Vous savez, quand ils apportent les enfants à la maternelle, par exemple, mon premier stage, c'était ça. J'observais les parents qui faisaient leurs recommandations. Et je trouvais ça un petit peu rigolo, en fait. J'aimais bien me moquer intérieurement, bien sûr, parce qu'on trouvait de tout. Il y a des parents qui disent des trucs assez basiques, du genre « Tu écoutes bien le maître, hein ?» Et après ça, ils nous regardent, nous, en disant... ils nous le disent pas, mais ils disent « Et toi, tu fais bien gaffe à mon fils, hein ?» Ou alors, il y en a qui disent des trucs un peu insolites. Ils disent « Surtout, tu n'enlèves pas tes chaussettes !» Comme si, voilà, il y avait des agissements comme ça, un peu bizarres. Et puis, bon, j'ai arrêté de me moquer, parce que d'abord, j'ai des enfants maintenant, et je suis pas loin d'être aussi, on va dire, pas ridicule, mais aussi, comment dire... voilà, je fais pareil, quoi. Je vais dire à mes enfants quelque chose. Et ceux qui font des colonies à Matania, c'est un petit coup de pub aussi pour Matania, vous observez aussi, parce que quand les parents quittent leurs enfants pour une journée, c'est pas grand-chose, mais quand ils les quittent pour deux semaines, là, il y a des recommandations qui sont... Comment dire, là, je ne moque pas, parce que c'est un peu plus grave. Mais ce que j'ai toujours observé, toujours remarqué, et c'est là aussi que je me moquais moins, et même, enfin, c'est une image, hein, quand je dis que je me moquais, c'est surtout que ces recommandations, il y a beaucoup d'amour dedans, il y a beaucoup de soucis, c'est un peu quelque chose même de désespéré, il y a quelque chose comme ça dans ces recommandations que les parents font à leurs enfants. Et dans le texte qu'on va voir aujourd'hui ensemble, il y a cette tonalité, vous voyez, de recommandations, cette tonalité de un peu grave. Et donc c'est dans l'épître aux Philippiens qu'on va voir ce texte. Donc je vous propose de prendre l'épître aux Philippiens au chapitre 1. Nous lirons des versets 27 à 30, pardon. Donc Philippiens 1, versets 27 à 30. Alors c'est une lecture suivie en fait que l'on fait dans le livre des Philippiens. Et donc il y a donc plusieurs intervenants qui vont parler du texte. Et on va donc couvrir comme ça toute l'épître aux Philippiens. Donc je vais lire donc versets 27 à 30. Juste avant, je voudrais juste refixer un peu le contexte, si vous le permettez. Donc en fait, c'est une épître où l'apôtre Paul se réjouit beaucoup et manifeste clairement son affection aux membres de cette communauté. Donc Philippe, ça se trouve dans l'actuelle Grèce, hein, au nord, dans Macédoine. Et donc Paul est très content de ces chrétiens, parce que c'est une église relativement exemplaire. Et il passe donc dans la première partie beaucoup de temps à être reconnaissant envers Dieu parce que justement ces chrétiens sont en bonne santé spirituelle. Et Paul écrit cette lettre de Rome où il est prisonnier. Et donc il est en captivité, donc dans des circonstances un peu inhabituelles. Et juste avant, donc, il renouvelle encore son entière consécration à Dieu. Et le message donc, qui a été traité avant celui d'aujourd'hui, exprimer justement cette fameuse phrase « La vie, c'est le Christ. Pour moi, la vie, c'est le Christ. Et la mort m'est un gain. » C'est donc Luciano qui avait traité ce message. Et donc, juste avant de dire ce qu'il va dire là, au verset 27, Paul va exprimer par ailleurs sa certitude que son heure n'est pas venue, que lui, il pense encore justement revenir, il souhaite revenir édifier l'église de Philippe. Et il projette de revoir cette communauté, affirmant par là que ce serait un grand moment de réjouissance ensemble qu'ils puissent se revoir. Mais comme je vous le disais, il va y avoir un petit peu cette tonalité plus grave, parce que justement, il le sait, mais en même temps, il n'en est pas très sûr qu'il reverra ces Philippiens. Et donc, il va s'appliquer à faire une recommandation dans le même ton de quelqu'un qui va peut-être pas revoir des gens qu'il aime. Et donc, il va se lancer dans une exhortation, une recommandation plutôt de dernière minute. Donc, je vous propose de lire... dans la traduction de la Colombe. Je lis juste avant pour refixer bien. « Mon retour auprès de vous vous donnera ainsi un nouveau et abondant sujet de vous glorifier à cause de moi en Christ Jésus. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. » C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, une preuve de salut, et cela de la part de Dieu. Car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu livrer et que vous l'apprenez, je livre encore maintenant. Je propose aussi une traduction français courant, c'est juste pour avoir aussi une autre musique dans l'oreille de ce texte. Seulement conduisez-vous d'une manière conforme à la bonne nouvelle du Christ. Ainsi, que j'aille vous voir ou que je reste absent, je pourrais apprendre que vous demeurez fermement unis dans un même esprit et que vous combattez ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. Ne vous laissez effrayer en rien par vos adversaires. Ce sera pour eux le signe qu'ils vont à leur perte et que vous êtes sur la voie du salut. Et cela vient de Dieu. Mais encore en souffrant pour lui. Maintenant, vous participez au même combat que vous m'avez vu livrer autrefois et que je livre encore, comme vous le savez. Je pense que le fait d'être dans les chaînes, ajouté à l'incertitude de revoir ou pas ces Philippiens, va faire que Paul va vraiment développer des points qui lui tiennent à cœur. Et je vous propose donc de vous arrêter sur trois d'entre eux pour voir justement en quoi Paul juge nécessaire de ramener ces éléments à la mémoire des Philippiens et ce que nous pouvons retirer pour nous aujourd'hui, ce matin. Donc j'ai relevé pour ma part trois points. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais sinon il nous faudrait plus de temps. Donc en premier lieu, nous verrons que Paul trouve important de parler de la conduite. Ensuite, il trouve important de parler de la fermeté. Et ensuite, il trouve important de parler de la grâce de croire, ainsi que la grâce de souffrir pour Jésus-Christ. Alors, la conduite. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Alors, pourquoi Paul parle de cette conduite, du fait de bien se conduire? Et en deuxième question, d'ailleurs, de quelle conduite s'agit-il? Quelle est la bonne conduite du chrétien? Alors, avant tout, peut-être rappeler que notre conduite, nos actes, notre comportement procèdent de ce qu'il y a dans notre cœur. Ce qui se voit à l'extérieur, justement, notre comportement, témoigne de ce qu'il y a à l'intérieur. Dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 45, Jésus dit « L'homme bon tire le bien du trésor. » Excusez-moi, je reprends, c'est un petit peu dur à dire. « L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, et le mauvais homme, entre guillemets, tire le mal de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Et j'ai pensé à peut-être un thème, entre guillemets, que nous avons peut-être tendance à oublier. Bon, qui n'est pas... je ne sais pas si Paul réellement voulait dire ça, mais ça me faisait penser à ça quand je le lisais. C'est que peut-être nous oublions qu'être chrétien, c'est avoir été racheté par Dieu. Le thème du rachat. Avant de connaître Dieu, nous étions comme des esclaves. C'est ce que la Bible dit. Nous étions asservis par notre nature première. Nous étions incapables de plaire à Dieu et même sans cesse emmenés vers de mauvais choix. Comme ça, je pense toujours à Pinocchio. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de Pinocchio qui découvre sa liberté nouvelle alors qu'il était un pantin en bois et de découvrir la vie de chair, entre guillemets, qui fait tout et n'importe quoi. Et ça, je pense que, en tout cas, pour ma part, je pense que j'étais comme ça. J'imagine notre nature première, c'est un peu comme ça. Et notre nature nous emmène systématiquement vers le péché, vers le fait de rater la cible. Et accepter la présence de Dieu dans notre vie, dire oui à Dieu, on oublie peut-être que c'est aussi choisir un nouveau maître. Ce n'est pas simplement un petit contrat, c'est un vrai contrat, c'est même une transaction qui met en jeu notre liberté, entre guillemets. Et Paul développera dans l'Épître aux Romains, je vais revenir dessus juste après, que justement, nous croyons être libres. Nous nous sommes en fait asservis à nos penchants. Et la liberté, c'est quelque chose de très, très subjectif, encore une fois. Mais accepter Jésus dans notre vie, accepter de suivre Jésus, nous engage dans le sens où nous devenons son disciple. Et puis, nous oublions peut-être une chose, c'est que Jésus a payé un rachat, on entend achat dedans. Jésus a payé un prix. Et Jésus a payé de sa vie le prix de notre rachat. Et cette transaction n'est entérinée que lorsque nous disons oui, nous signons en bas, nous disons ok, voilà, moi je veux te suivre, je veux t'obéir. Et nous entérinons une transaction qui nous engage, corps et âme, qui nous engage donc pas dans un petit lien simplement, mais l'image est forte, nous devenons esclaves de Dieu, esclave de la justice. Notre liberté n'est plus là où nous pensons dans nos décisions à nous, mais dans ce que Dieu veut pour nous. Et justement, dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, versets 16 à 17, Paul dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. » Et surtout cette dernière phrase, « Ayant été affranchi, donc libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. » Donc c'est vrai que quand on reprend ce thème, si on l'a bien, si on reprend donc les termes du contrat, notre vie, nos tendances, notre caractère, nos pensées, notre intimité appartiennent à Dieu. Si toutefois nous comprenons bien cette étape du rachat, si toutefois nous voulons bien justement revenir sur les termes du contrat. Et pourquoi Paul insiste-t-il sur ce point-là? Alors un élément de réponse, c'est que justement, la possibilité de se conduire autrement que selon l'Évangile existe. En tout cas, chez moi, elle existe. Et Paul est soucieux du fait qu'on peut se méprendre. C'est vrai que si on s'arrête en disant « moi je me conduis bien » ou « avoir une bonne conduite », c'est très subjectif. Et vous savez, tout le monde dit qu'il conduit super bien. Par exemple, une voiture, tout le monde dit « ah, moi je conduis bien ». Mais on n'a pas tous les mêmes notions de la bonne conduite. Et donc, se conduire ou bien se conduire, c'est très subjectif. Les critères humains de la bonne conduite ne sont pas du tout les mêmes que ceux de l'Évangile. Si on prend un exemple politique, on peut être un très bon citoyen d'un régime totalitaire. Avoir une bonne conduite. Ça veut dire que, par exemple, en tout cas pendant la Deuxième Guerre mondiale ou même en Allemagne de l'Est, être avoir une bonne conduite, c'était dénoncer ses voisins. C'était justement dénoncer des juifs ou des communistes ou d'autres personnes qui étaient hors la loi. Et est-ce que ça, c'est une bonne conduite? Oui, à une certaine époque, c'est une bonne conduite. D'ailleurs, quand on voit les reportages qui parlent donc des exactions pendant les guerres ou qui vont justement juger les gens qui ont fait des crimes de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale ou pendant la guerre d'Algérie ou toutes les personnes qui ont été amenées entre guillemets à torturer, vous disent tous à peu près la même chose. Ben oui, mais j'ai fait qu'obéir aux ordres. C'était la bonne conduite. Et il se trouve aussi que notre cœur humain ou notre humanité a une tendance à se conformer les uns aux autres. On n'est pas, comme on a tendance à se conformer, adopter les codes du cadre dans lequel on se trouve. J'ai une image en tête par rapport au film, vous savez, c'est un vieux film, je m'adresse à ceux qui ont plus de 30 ans ici dans cette salle. Le film qui s'appelle « Le cercle des poètes disparus », très bon film par ailleurs, où justement on voit justement un professeur qui veut déranger, qui veut amener justement un petit peu de levain dans l'attitude très stéréotypée de ses élèves, et à un moment donné, pour leur montrer que bon, justement, il y a une tendance à se conformer les uns aux autres, il leur dit bon, il prend son groupe d'élèves, il leur dit bon, allez, tournez en rond maintenant, comme ça. Alors les élèves tournent, et il leur dit, mais marchez comme vous voulez, chacun comme il veut. Et donc ils commencent à tourner en rond, comme ça, bon, à marcher, alors chacun marche comme il veut, etc. Et au bout d'un moment, on entend tout le même pas, parce qu'au bout d'un moment, ils se sont tous mis à marcher en cadence et au même rythme, en l'espace de 5 minutes. Et si on faisait l'expérience ici, il y a une expérience, je crois, qui a été faite, de prendre un groupe de 100 ou 200 personnes et de demander à 10 personnes de ces 200 personnes d'agir différemment. Et il se trouve qu'au bout d'un certain moment, les 200 personnes agissent de la même façon que les 10 autres personnes. Pour dire que, animalement, entre guillemets, ou physiologiquement, nous avons tendance à nous conformer à un certain comportement, à une certaine conduite. Et que, justement, le pire, c'est qu'on va trouver qu'elle est bonne, cette conduite, parce qu'on a tous la même. Et l'observation, l'analyse, et plus tard, évidemment, la maîtrise de notre conduite, nous permet de voir, justement, si nous sommes en accord avec la conduite selon l'Évangile. C'est donc ce que demande Paul. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Parce que, justement, notre conduite, c'est lisible, c'est quelque chose de visible, on va s'en rendre compte, on va se voir faire des choses. D'ailleurs, c'est parfois même insupportable de se voir faire des mauvaises choses, de se surprendre en flagrant délit de mauvaise conduite, c'est jamais agréable. Une autre image me venait aussi en tête, je ne sais pas si vous connaissez, pour ceux qui achètent du vin ici, je suis le premier entre vous, il y a l'étiquette ou le certificat AOC, bon, c'est pour le vin mais c'est valable pour d'autres produits. Vous savez ce que ça veut dire AOC? Ça veut dire appellation d'origine contrôlée. Et donc, j'ai cherché ce que ça voulait dire. En fait, les produits qui portent la marque AOC, ça ne veut pas dire que ce sont des super produits. Ça veut simplement dire que ce sont des produits qui ont été jugés selon la fidélité au modèle d'origine. Et donc, il y a des organismes qui sanctionnent ces choses, qui évaluent pour voir si vraiment ce produit que vous achetez est fidèle, et rigoureusement même fidèle, au modèle d'origine. Et je pense que c'est une image qu'on peut garder pour nous. Nous, notre modèle d'origine, c'est Jésus. Et c'est vrai que nous avons à être des produits, être des chrétiens, appellation d'origine contrôlée. Et notre comportement va nous emmener, va se voir parce que notre comportement produit des choses, produit des fruits. Et Jésus a développé toute une imagerie autour de cette image, donc des fruits. Et donc Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 16 à 18, il dit « Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Et en plus, donc l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, toujours, chapitre 6, versets 20 à 22, il garde cette même image en disant « Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors ? Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, libéré du péché, esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. » Dans la Bible, il y a des exemples. Je pense par exemple à David, le roi David, à qui il fallut l'intervention du prophète Nathan pour se rendre compte que son cœur avait dévié. Et pourtant, lui, dans le genre, il avait eu justement des flagrants délits, entre guillemets, d'actions graves avec Bathsheba, donc l'adultère, le mensonge, puis le meurtre de son mari. Il était oint par Dieu, il avait l'esprit de Dieu. David nous est décrit comme un homme selon le cœur de Dieu, et pourtant, autant de raisons de croire justement qu'il était en sécurité, qu'il était armé pour bien se conduire. Et pourtant, on le voit donc avoir besoin de quelqu'un d'autre pour lui dire « là, tu as fait mal ». Pour dire que nous dévions très facilement du but, si facilement. Notre vie de foi est un chemin. Ce n'est pas une autoroute où justement il y a juste à suivre, c'est un chemin. Et dans ce chemin, parfois on s'égare. Parfois, on ne sait plus la direction, on se perd, on croit faire bien, on croit faire pour Dieu, on veut aller plus vite, on veut faire à notre façon. Mais la vraie question, en fait, c'est de se dire, est-ce que c'est ce que Dieu attend ? Est-ce que c'est en droite ligne ? Est-ce que c'est digne de ce que Dieu attend ? Est-ce que Jésus serait fier de moi aujourd'hui ? Est-ce qu'il serait fier de ma conduite à ce moment-là ? Alors, le danger qui guettait les Philippiens en tant que jeune communauté et le danger qui peut nous guetter, nous, en tant que communauté, en tant que chrétien, membre à part entière, individuel, je veux dire, c'est justement de dévier, de revenir à l'obéissance de notre ancienne vie, à nos critères de notre ancienne vie, parce que l'ancienne vie, on la connaissait. L'ancienne vie, il y avait une espèce de tranquillité à court terme, un espèce de confort, des repères connus de notre entourage. Et c'est même peut-être même un danger en tant qu'Église que l'on se conforme tous au même code, aux mêmes attitudes, aux mêmes comportements. Parce que ce qui est rappelé ici, c'est justement le souci, c'est d'avoir une conduite digne de celle de Jésus-Christ, pas de celle de nos voisins, même si on est super admiratif, super fier de ceux qui nous entourent. Et c'est un défi, évidemment, je dis ça. En conséquence, donc, Paul demande aux Philippiens de vivre non plus selon leur propre désir, même si c'est très louable. Donc on entend par là aussi qu'on peut imiter Jésus en acte seulement. On peut reproduire des gestes vides de sincérité ou de consécration. Mais simplement, il les appelle à vivre dans le désir exclusif de Dieu, dans l'unique souci de faire sa volonté. Le message de la semaine dernière nous rappelait justement que Jésus vivait, se nourrissait littéralement de faire la volonté de Dieu. Et nous sommes invités, nous sommes appelés à avoir nous aussi cette priorité vitale, se soucier 24 heures sur 24 de la volonté de Dieu. Je vous le dis, je me l'applique à moi, c'est pas du tout pour vous faire la leçon, on est bien d'accord. Mais, et non pas comme des employés serviles, craintifs, parce que le patron va arriver, mais dans l'amour pour plaire à Dieu, parce que Dieu nous aime, alors on veut lui faire plaisir. Et Dieu ne nous attend pas à une conduite codifiée, écrite d'avance, avec certaines choses comme ci, comme ça, qui ne bougeront pas. Dieu veut plutôt que nous soyons des parties prenantes, Dieu que nous soyons en marche, Dieu que nous soyons convaincus que nous sommes au bon moment, à la bonne place. Le doute est nécessaire des fois pour vérifier ces choses-là. Et Jésus se nourrissait de faire la volonté de son Père alors qu'il était l'égal de Dieu. Il avait toute l'attitude pour faire ce qu'il voulait. Il était l'égal de Dieu pourtant. Il se mettait à l'écart pour vérifier ou pour s'entretenir avec son Père, pour faire justement être digne, être dans la ligne de ce que son Père voulait. Aussi, nous avons à faire attention à notre conduite, à tout ce qui s'y rapporte, notre cœur, nos pensées, nos actes, notre comportement, pour que cette conduite soit digne de l'Évangile, digne de ce que Jésus nous a annoncé, que cette conduite soit pétrie, imprimée par la dimension d'une vie habitée par un Dieu vivant, par la présence vivante de Dieu. Un autre point, donc le deuxième point que Paul va, sur lequel il va s'arrêter et qu'il tient à ce que les Philippiens entendent, c'est la fermeté. Donc je relis ce passage. Que j'entende de dire de vous, que je sois absent ou que je vienne, que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires de l'Évangile. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, une preuve de salut, et cela de la part de Dieu. Français courant, vous tenez ferme dans un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur, selon la foi de l'Évangile, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires, ce qui est pour eux le signe manifeste de leur ruine, et pour vous le signe manifeste de votre salut. Et cela vient de Dieu. Pourquoi Paul juge nécessaire de parler de la fermeté? Alors notre vie sur terre, c'est une vie de foi. Et il est dit dans la Bible que la foi aux yeux de Dieu est plus précieuse que l'or que nous connaissons. L'or qui pourtant est ici un étalon, sur notre terre, un étalon monétaire pour juger si quelqu'un est riche ou pas. Et cette foi plus précieuse que l'or que nous connaissons a besoin d'être armée, d'être épurée, d'être étayée. Pour la bonne raison que, et c'est ce que Paul, je pense, voulait rappeler aux Philippiens, nous sommes au cœur d'un combat spirituel. Peut-être que combat spirituel, c'est un mot qui nous parle peu. Peut-être que conflit, ça nous parle plus. On voit tous les jours à la télévision, dans les reportages, un conflit, c'est grave, c'est quelque chose où il y a des morts, c'est quelque chose où il n'y a pas de, comment dire ça, de la règle du jeu, c'est la vie ou la mort. Et là, le conflit se trouve entre Dieu et le diable, entre le bien et le mal, entre Dieu à qui nous voulons appartenir et le diable qui essaye, de toutes les manières qui soient, de justement nous faire dévier. Est-ce que c'est parce que Paul est justement combattu, puisqu'il est en captivité, qu'il juge bon de rappeler aux Philippiens qu'ils sont partie prenante de ce combat. Et nous sommes partie prenante de ce combat, de ce conflit permanent qui existe entre le bien et le mal, entre Dieu et le diable. Alors, évidemment, quand on perçoit cette dimension du conflit, la fermeté, ce n'est pas quelque chose qui semble inutile. Et justement, Paul appelle les Philippiens à la fermeté, notamment dans l'épreuve ou dans la persécution à venir, ou dans la persécution quand on la vit. Et donc, il les appelle surtout à une constance, non pas chacun dans leur coin, en brebis éparpillés, mais bien en tant que communauté, en tant que groupe, dans une même unité d'âme et d'esprit, donc l'âme et l'esprit, deux composantes de notre être, qui montrent bien justement l'intimité, le degré d'unité qui doit exister chez les Philippiens, qui doit exister chez nous aussi en tant qu'Église. Et quand on regarde le dictionnaire, justement, de savoir qu'est-ce que ça veut dire ferme, on trouve plusieurs choses intéressantes. La fermeté, c'est quelque chose de on dit ça de quelque chose de définitif, de solide, de stable, qui offre de la résistance. Et quand on dit de quelqu'un qu'il est ferme, on parle de lui en disant que c'est la qualité de celui que rien n'ébranle, qui a une énergie morale, qui est constant, qui est assuré, qui ne fléchit pas, qui ne faiblit pas. Je ne sais pas pour vous, mais la fermeté, moi, ça me fait penser à des choses difficiles, des choses fatigantes, les efforts, le travail, la rigueur, la constance. C'est vrai que la fermeté, c'est un versant fatigant de la foi. Toujours, de continuer, de persévérer, c'est quelque chose de fatigant. Et Jésus a salué publiquement, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, c'est ramené qu'il a salué publiquement la foi d'un centenier. Et quand je dis saluer, en fait, c'est faible. C'est pas qu'il a salué, c'est qu'il a dit que c'était la plus grande foi qu'il avait trouvée en Israël. Et c'était celle d'un centenier, donc un soldat. Et il avait vu chez ce soldat la fermeté, la constance qui est caractéristique aux militaires, ils sont habitués à obéir. Et ce qu'il avait vu, c'est que cet homme appliquait ces choses-là dans la foi qu'il avait en Jésus et dans son obéissance. Et donc Jésus lui-même, l'auteur de notre foi, Jésus lui-même nous dit que notre foi doit être pétrie de cette ténacité, de cette persévérance, malgré l'adversité. La fermeté, donc j'ai dit tout à l'heure que c'est de la résistance. Donc la foi malgré la compréhension, la foi malgré la déception, malgré la tristesse des épreuves, malgré les persécutions, malgré les secousses, malgré les doutes. La foi doit à ce moment-là témoigner d'une certaine, d'une fermeté, d'une solidité, d'une stabilité. Et Paul reprend à son tour pour les Philippiens cette vertu et il souhaite chez eux, donc en plus il leur dit, de demeurer ferme. Et demeurer, ça veut dire durer, persister, rester ferme. Dans la société dans laquelle on vit, il y a beaucoup de récompenses, vous savez, des petites médailles, des choses comme ça. Et donc il y a plein de récompenses, plein de types de récompenses. Et que ce soit dans le domaine artistique ou autre, il y a des récompenses pour les gens dont l'action s'est inscrite dans la durée. Pour des gens, par exemple, dans certains festivals, on va récompenser quelqu'un pour son œuvre entière, quelqu'un qui est, entre guillemets, avancé dans sa vie, mais qui a fait tant de films, tant de belles choses. Et on va le mettre à l'honneur parce que, justement, pour toute son œuvre, pour la longévité, pour la pérennité de son œuvre, il a duré, donc on va récompenser ça. Et donc, c'est clair que même pour le monde dans lequel on vit, c'est clair que durer, c'est pas évident, et durer, c'est méritant. Et c'est beaucoup plus simple de faire des coups d'éclat, de briller hop une fois comme un feu d'artifice, que justement de briller dans la durée. Et on le voit aussi dans notre société aussi, par rapport à la notoriété, dans la télé-réalité, toutes ces choses-là. On voit bien que justement aujourd'hui, il y a des tas de gens qui vont briller qu'une seule fois comme ça, qui vont devenir très très célèbres pour rien, et puis donc ils vont retomber dans l'oubli comme ça. Donc il y a une certaine vanité, que dans la durée justement. C'est un gage pour nous chrétiens justement de savoir durer. C'est un défi aussi de savoir durer. Et donc Paul engage les Philippiens à persister, à tenir bon, à ne pas fléchir, à ne pas faiblir, mais de mettre tous nos efforts au profit ces efforts, de les mettre au profit de la foi dans l'Évangile. Donc c'est au profit de toutes les paroles de Jésus, de tout ce qui fait justement notre foi, c'est-à-dire les 10 commandements. Et il ajoute de résister aux adversaires, de ne pas se laisser effrayer. Alors, c'est important de se dire, mais qui sont les adversaires de l'Évangile, justement? C'est bon de les identifier, de connaître un peu les ennemis. Alors, les adversaires de l'Évangile, bah, ça peut être des personnes, des humains, je veux dire, donc ça peut être l'entourage proche, au travail ou dans sa propre famille, quelquefois. Ça peut être des collègues, ça peut être des autorités, des gouvernements, ensuite ça peut être des philosophies, des courants de pensée qui sont contraires à l'Évangile. Et puis aussi, les ennemis de l'Évangile, ça peut être nous-mêmes, notre propre chair. Nos pensées, nos sentiments, notre conscience, notre cœur, les actes qui en découlent. Et évidemment, l'ennemi principal, c'est le diable, notamment. Mais le diable, justement, a parfois peu à faire pour nous emmener loin de ce à quoi nous sommes appelés. Loin de la conduite d'appellation d'origine contrôlée. Et c'est vrai que les ennemis de l'Évangile sont nombreux dans notre monde, parce que notre monde ne joue pas les mêmes règles que le royaume des cieux. Au royaume des cieux, Jésus nous demande de pardonner, même si on nous a fait mal, même si c'était injuste. Au royaume des cieux, on nous demande de rendre le bien pour le mal. On nous demande de tendre la joue, de faire plus, alors quand on nous force à faire quelque chose, de faire un pas de plus, de renverser la vapeur, d'être à contre-courant. Voilà ce que nous demande le royaume des cieux, ce que nous demande Jésus. Voilà pourquoi nous avons besoin de fermeté. Le premier message que Louis a donné de l'année 2009, nous invitait justement à regarder devant, à lutter pour toujours regarder devant les choses à venir, et ne pas regarder le passé, de peur que justement ça alourdisse notre marche. Et plus loin dans l'épître aux Philippiens, Paul, Philippiens 3, verset 13, dira « Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Comme pour dire que dans la marche avec Dieu, nous puiserons toujours la force d'avancer en regardant ce qui nous attend, en regardant la gloire qui nous attend, le salut qui nous attend, la présence de Dieu qui nous attend, le meilleur. Et Paul ajoute, je reviens donc dans l'épître aux Philippiens, « C'est pour eux, pour les adversaires de l'Évangile, une preuve de perdition, mais pour vous, c'est une preuve de salut, et cela de la part de Dieu. » Là, je propose d'entendre aussi la transcription de la parole vivante. Alfred Kuhn traduit ce passage en disant « Par leur résistance, ils prononcent eux-mêmes leur sentence, les ennemis donc de l'Évangile, et s'attirent leur condamnation. Votre intrépidité, par contre, est un signe que Dieu agit en vous, et un présage certain de votre salut final. Tout cela vient de Dieu. Il vous conduira au but. » Paul a l'air de dire donc que non seulement nous devons ne pas craindre nos adversaires, quelque chose de facile à dire, mais peu difficile à vivre, mais en plus nous devons être certains que Dieu nous approuve dans ce chemin et que nous sommes justement dans le vrai. Et on n'a pas été usurpé, puisque Jésus, dès le départ, disait, dès les béatitudes, Jésus disait que « Heureux serez-vous, heureux, pardon, donc Matthieu 5, verset 10 à 11, que le bonheur disait « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. » C'est un passage fort, on ne vit pas, personnellement je ne vis pas une persécution comme certains membres de l'Église universelle peuvent les vivre. Un passage fort. Encore Jésus qui dit « Vous avez entendu qu'il était dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Enfin, dernier point, Paul avance donc un point dans sa recommandation aux Philippiens. C'est la grâce, la faveur que Dieu nous fait de croire en Jésus-Christ, mais encore de souffrir pour Jésus-Christ. Car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Alors il est plus facile de comprendre la première partie, qu'il nous soit fait la faveur de croire en Christ, mais celle de souffrir pour Christ. Ce n'est pas évident à saisir, surtout que bon, en tout cas je me répète, mais mon quotidien ne m'emmène pas toujours vers une souffrance pour Jésus-Christ. Mais c'est un fait que Dieu nous fait la faveur, le privilège d'avoir la foi, de croire que Jésus-Christ soit le Fils de Dieu, que cela soit quelque chose de lumineux pour nous. Et ça ne procède pas de nos raisonnements, ça ne procède pas d'une lubie tout d'un coup, de quelque chose qu'on déciderait, mais c'est en soi un miracle pour tout le monde, un miracle permanent, même quotidien pour nous, chacun notre vie, que nous puissions saisir, même que les choses de la Bible nous parlent, que ces choses, entre guillemets, spirituelles nous parlent. Sous cet angle, ça semble presque normal que Paul dise, rappelle ça dans son exhortation. Se rappelle qu'être chrétien, ce n'est pas habituel, ce n'est pas quelque chose de normal. Nous sommes privilégiés de pouvoir être en communion avec Dieu. Il est dit dans d'autres passages de la Bible que c'est un appel. Par contre, souffrir pour Jésus, en quoi ça peut être une grâce? En quoi ça peut être une faveur que Dieu nous fait de souffrir pour lui? Qu'est-ce que ça peut produire de bon, la souffrance, en nous? Peut-être important aussi de définir ce que ça peut vouloir dire. Pour ma part, je me dis que souffrir pour Jésus, c'est à un moment donné souffrir de l'opposition, souffrir, être dans l'adversité, parce que justement nous témoignons nous voulons appliquer les choses que Jésus nous demande, nous voulons pardonner, nous voulons aimer, être à contre-courant justement de la société, des réactions de nos contemporains ou de choses qu'on nous demande de faire. Alors j'ai trouvé, on va dire, dans la Bible des réponses que je m'applique évidemment à moi en premier, mais que je propose d'entendre. Alors, qu'est-ce que ça peut produire de bon de souffrir pour Jésus, pour l'Évangile? Peut-être en premier lieu, cela nous rend plus proches de Jésus. Cela resserre les liens qui nous unissent à lui, parce que Jésus a souffert. Et Jésus a souffert parce qu'il était sur terre déjà. Et ensuite, Jésus a souffert, une souffrance jusqu'à la croix, il a vécu le martyr, n'est-ce pas? Et le fait de, à certains moments, ressentir dans notre chair de l'opposition fait que nous cernons, nous comprenons un peu de quoi il s'agit. Nous faisons nôtre aussi, nous approprions donc cette souffrance, et c'est vrai que ça nous rapproche de Jésus. Dans l'épître de Pierre, au chapitre 4, versets 12 à 14, il dit, Pierre, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. La semaine dernière, il y a eu un film donc, qui s'appelle Le Patriote, qui est passé sur France 2, et qui se passe, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu dans cette salle, mais ça se passe pendant la guerre d'indépendance aux États-Unis, au moment donc, justement où l'État, la colonie anglaise des Amériques va devenir justement un projet de devenir les États-Unis. Et à un moment donné, il y a un héros qui ne veut pas se battre, parce que justement, lui, il dit « moi, je ne peux pas, j'ai des enfants ». Même s'il est persuadé que c'est une bonne chose, il ne peut pas, en tout cas, il ne se sent pas de le faire. Et pourtant, c'est un soldat émérite qui a eu ses heures de gloire avant. Et dans le film, je pense que c'est quelque chose qui a dû arriver, de toute façon, c'est aussi comme ça dans un conflit, il va souffrir dans sa chair, on va l'atteindre puisqu'on va atteindre ses enfants. Et c'est cette souffrance dans sa chair qui va tout d'un coup lui faire prendre conscience de la réalité du conflit, qu'il ne peut pas comment dire ça, l'éviter, il ne peut pas faire mieux que justement d'aller combattre et de prendre sa place. Et notamment, c'est vrai qu'on voit dans toute situation de conflit, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, les gens qui rentraient dans la résistance, souvent c'était suite à justement une violence qui avait été faite au peuple, quand on avait tué des Français, ou quand justement il y avait quelque chose d'assez horrible qui justement grossissait les rangs des résistants. En deuxième lieu, même si justement dans ce film dont je parle, dans cette image, c'est une situation particulière, je pense que le fait de souffrir à un moment donné, parce que justement on applique le comportement que Jésus voudrait qu'on ait, cela nous rend plus clairvoyants, plus lucides justement sur le conflit qui est en place, le conflit spirituel, et ça nous rend plus à même de comprendre justement ce qui se passe. Voilà pourquoi c'est peut-être bon parfois de souffrir. Ensuite, Paul exhorte les Philippiens sur la façon d'accueillir la souffrance. Quand on souffre, quand quelque chose nous arrive d'une tuile ou quand justement il y a quelque chose d'injuste qui nous arrive, on a tendance à plutôt le subir, à le rejeter en disant en trouvant que c'est pas juste justement. Mais Paul exhorte les Philippiens à considérer plutôt la souffrance comme une faveur, la faveur d'être considéré comme Jésus. À un moment donné, on est poursuivi de la même façon qu'on aurait poursuivi Jésus, de la même façon qu'on l'a rejeté, on nous rejette nous. Cela veut dire qu'on est justement semblable à lui, qu'on a suivi le bon modèle, qu'on est dans le vrai, quoi. Ensuite, c'est une faveur peut-être de souffrir pour Jésus, parce que c'est peut-être la preuve que justement Dieu nous utilise pour faire avancer son œuvre. Dieu nous inscrit dans son projet. Et Jésus dit dans l'évangile de Jean 12, versets 24 et 25, « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Et Jésus dit ça à un moment précis, il dit ça juste avant justement d'aller se poser des questions sur se dire « mais est-ce qu'il faut vraiment que j'aille souffrir ?» pour les hommes, est-ce qu'il faut vraiment que j'aille au bout de cette mission? Il pose cette question à ce moment-là à son père et il répond lui-même en disant que justement, il y a cette vérité spirituelle, que s'il n'y a pas à un moment donné la mort, c'est sa mort en tout cas qui va ouvrir le chemin vers le ciel, qui va permettre justement le fait que nous soyons tous réunis ici en son nom. Et souffrir pour Jésus indique justement que nous sommes acteurs. Dieu nous utilise à ce moment-là, si toutefois nous réagissons comme il faut. Alors en conclusion, je vais simplement vous rappeler les points que j'ai abordés. Donc Paul adresse cette recommandation à cette jeune église comme un père le ferait à son enfant qu'il ne va pas voir pendant un certain temps, qu'il n'est pas sûr de revoir. Et donc il dit en premier lieu de veiller à notre conduite, qu'il veille sur leur conduite. Que leur conduite et que notre conduite procède toujours de ce que Dieu met dans notre cœur, de cette nature nouvelle, régénérée, soumise à lui, dans l'unique objectif de lui plaire, comme le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ensuite, Paul les enjoint de rester unis en tant que communauté, dans cette lutte, dans ce combat pour rester fidèles. D'être ferme, d'avoir des positions définitives quant à la foi découlant des paroles de Jésus, celles dont il est l'auteur. avoir cette qualité d'être tenace, d'être têtu, persévérant, combatif. Et il est dit donc intrépide, audacieux, pour vivre cet évangile et pour le vivre dans l'adversité, dans le combat, dans notre vie, mais aussi dans le monde dans lequel nous vivons. Prendre conscience que c'est une grâce de connaître Dieu. Ce n'est pas une lubie ou une œuvre de notre esprit, mais bien un miracle, un privilège que Dieu se soit approché de toi, de moi, et se fasse connaître à nous, se révèle. Et c'est encore une grâce de souffrir pour lui, parce que ça nous rapproche de lui, ça nous inscrit dans le projet de Dieu, ça nous ancre dans son attachement à lui. J'ai reçu dernièrement un coup de fil d'un des deux pasteurs de qui j'étais le secrétaire quand j'étais à l'armée. Et donc, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas entendu. Et j'avais oublié, c'est un personnage, quoi. Hein. Et je voudrais vous dire au revoir comme il m'a dit au revoir. Il m'a dit, au lieu de me dire au revoir, il m'a dit « Le Seigneur nous accompagne, hein ?» Et il a raccroché. Donc, je vais vous dire la même chose, « Le Seigneur nous accompagne ».